DJ Mogul African Fair Play Farafina Bolota America will in the coina Bibi Namu what is it? No one and the Benada Bineni cook the fat coina.
Alone is my Nigerian. Tiki taka 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 shiba I cop to the gala. Napu kam la rawaz. Tiki bishik shati taka pahera yali rasmana.
Et 6 minutes à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire sur nos ondes l'après-match, bien sûr avec un habillage spécial, une thématique toute particulière, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019 qui se déroule actuellement en Égypte. Bien sûr, on joue pour le moment la 78e minute dans la rencontre qui oppose la Côte d'Ivoire à la République sud-africaine, l'Afrique du Sud. Donc, résultat pour l'instant, avantage aux éléphants ivoiriens, la Côte d'Ivoire et bien sûr l'Afrique du Sud qui se trouve dans le même groupe que le Maroc. On reviendra très largement aussi sur cette victoire hier. Victoire très compliquée, mais 3 points très importants des Lions de l'Atlas face à la Namibie. À mes côtés ce soir pour nous accompagner tout au long de cette édition de techniciens marocains. La parole tout d'abord à Abdelkader Youmer. Bonsoir, c'est Abdelkader et bienvenue.
Bonsoir, c'est Jalal. Bonsoir aux auditeurs de Midi 1.
Avec nous également notre consultant des émissions sportives, le technicien marocain Hilal Tahir. Hilal, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir tout le monde, ravi d'être parmi vous ce soir.
Avec nous également depuis le Caire, notre envoyé spécial Fouad El-Hannaoui. Fouad, bonsoir.
Bonsoir Jalal, bonsoir Saif Kader Youmer, bonsoir à notre ami Hilal Tahir, bonsoir à tous et à toutes.
Avec nous également notre consultant pour le football africain, Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonjour à tous les amis, c'est déjà bien parti notre CAN.
Elle est bien partie cette CAN, elle se poursuit donc avec ce match en ce moment même. On joue la 80e minute, toujours 1-0 pour les Ivoiriens face à l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est le futur adversaire du Maroc. On va d'abord au Caire. Fouad, tu as suivi donc ce match, l'entrée en lice de la sélection marocaine dans cette compétition. Ça a été dur, laborieux. L'équipe du Maroc a confirmé un petit peu les craintes qu'on a pu ressentir lors de sa préparation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, l'essentiel a été assuré, les 3 points de la victoire, le but contre son camp de Kouminou à quelques minutes de la fin du match. Fouad.
Ah oui, tout à fait, Jalal, une victoire au forceps pour les Lions de l'Atlas qui ont dû attendre les derniers souffles de la partie pour voir leurs efforts concrétisés par un adversaire, le joueur Kouimini, le numéro 17, qu'on va bien sûr adorer. Il nous a permis de marquer ce but qu'on attendait depuis le début de la partie, un but donc contre son camp pour le joueur namibien. Un but qui est venu un petit peu contre le cours du match, parce que jusqu'à la 87e minute, eh bien, cette équipe namibienne a avorté toutes les tentatives des Lions de l'Atlas. Il était bien organisé, bien mis en place. Il a fermé tous les côtés du terrain. Et l'équipe du Maroc a trouvé toutes les peines du monde pour trouver la faille dans une défense hermétique, malgré les tentatives de Hakim Ziyech, de Nordine Mrabat, de Ansari inexistant tout au long de la partie, et malgré les changements effectués par l'entraîneur de la sélection marocaine, Hervé Renard, on n'a pas vu cette sélection marocaine prendre le dessus sur cette équipe namibienne. Une première mi-temps très pâle de la part des Lions de l'Atlas, mis à part ce tir de Nabil Derrar, détourné par le gardien namibien. Eh bien, les Lions de l'Atlas ont été inexistants. Il faut dire aussi que la chaleur était à son comble, entre 34 et 36 degrés en première période. En deuxième période, les choses se sont améliorées avec quelques tentatives de surtout Hakim Ziyech, les débordements aussi de Hakimi, l'entrée de Soufiane Boufal a fait beaucoup de mal à la défense namibienne, mais sans pour autant créer le danger dans le box de la sélection namibienne. Et donc ce but venu du ciel, qui, comme vous l'avez dit Jalal, donne de l'espoir pour la sélection marocaine, un but très très important, parce que sans ce but, eh bien, les choses seraient très très compliquées pour Lions de l'Atlas dans cette CAN égyptienne.
Voilà donc 1-0, avantage à cette sélection marocaine qui remporte son premier match. C'est pas la spécialité de la maison, autant le dire. C'est seulement la troisième fois dans son histoire que l'équipe du Maroc gagne un premier match dans cette compétition. Là, ce n'est que la troisième fois, donc, et la troisième victoire du Maroc en match d'ouverture en 17 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Hervé Penaud, donc, une victoire, et c'est ce qu'on retient de ce match.
Exactement, parce que ce qu'il fallait, c'était surtout...
Voilà, c'est ce qu'il fallait, c'était surtout pas perdre. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Bien sûr, Abdelkader Youmir, on a vu que cette équipe du Maroc avait des lacunes, on a senti que cette équipe du Maroc n'était pas dans les meilleures conditions pour se préparer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe un peu vieillissante, on connaît les conditions climatiques également, et... le fait, tout simplement, que cette équipe manque un peu de, on va le dire, hein, c'est pas, manque un peu de talent aujourd'hui.
Il manque un peu de peps, mais normalement, dans des compétitions comme ça, le plus difficile, c'est le début. Donc, commencer une compétition avec une victoire, c'est une bonne chose. Ça va apporter beaucoup de choses. Les joueurs vont peut-être vont se relâcher. On va voir peut-être le vrai Maroc à partir du deuxième match. Mais ce que vous dites est vrai, parce que on a senti que c'est une équipe en fin de cycle. L'apport physique de certains joueurs n'est plus le même. Il y a aussi des lacunes au niveau de l'attaque, parce qu'on a créé, on a essayé de créer des occasions, mais malheureusement, il y avait un problème de finition. Il se démime, même c'est Jalal, que Ziyech, il a visé les attaquants marocains pendant tout le match, et en fin de match, il en avait ras-le-bol et il a visé l'attaquant de Namibie qui a marqué le but. Donc ça, c'est pour un peu... je pense que avec cette victoire... Et c'est la défaite de l'Afrique du Sud qui a 1-0 maintenant contre la Côte d'Ivoire après le match. Peut-être que le Maroc gagnera son ticket au deuxième tour à partir du deuxième match. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais si on veut décortiquer le match, on doit parler des lignes. Donc je pense que au niveau, on peut parler de la défense, le milieu et l'attaque.
C'est ce qu'on va faire. Donc, mais d'abord. Une première réaction, Hilal.
Je suis du même avis que le coach Youmir. Je pense que numériquement, l'essentiel a été fait. Mais la victoire a été loin d'être volée. C'est mérité, à mon avis. C'est vrai, le contenu n'est pas rassurant. Ouais. Mais il faut signaler quand même que l'entrée en lice des Lions de l'Atlas vient dans un contexte très difficile, après une préparation chaotique, après 3 défaites à domicile, malgré la semaine amicale des rencontres. Il y avait beaucoup de pression sur les joueurs, chose normale, mais ils ont bien réagi. On a revu le pressing, on a revu la grinta, on a revu la mobilité des joueurs. C'est vrai, il y a des remarques, il y a beaucoup de choses positives, mais il y a des choses aussi négatives, qu'on peut en parler par la suite.
Une chose donc positive et négative dans ce match. On va évoquer aussi ce quoi insistent beaucoup, en tout cas les techniciens, c'est la chaleur. Il a fait très chaud, surtout, on nous dit, Fouad le disait à l'instant, en première période.
Oui, la chaleur, c'est vrai, mais de toute façon, on partait en connaissance de cause. C'est pour ça que le choix de la préparation a été fait à Marrakech, parce que Marrakech, bon, peut-être pas la même chose, mais quand même, les joueurs étaient avertis. On a aussi des joueurs qui jouent, quelques joueurs titulaires qui jouent au pays du Golfe, au Qatar et en Arabie Saoudite. Je pense qu'eux, ils ont l'habitude de jouer dans ces températures-là. Donc, normalement, je pense que ça a joué pour les deux équipes. Mais ce qui manque, moi, je pense que dans cette équipe, au niveau de la défense, bon, il y a le cas Hakimi qui doit être réglé le plus vite possible, parce que quand vous prenez un arrière droit, vous le mettez à gauche, vous perdez deux postes. Moi, quand j'étais entraîneur, quand j'ai le choix entre changer le poste à un joueur ou bien le garder et mettre un autre joueur, je préfère le garder à son poste et essayer de mettre un autre joueur à sa place, même s'il est débutant, parce qu'à ce moment-là, tu perds sur les deux postes. Le poste du titulaire que Hakim joue n'a pas donné satisfaction, puisque Derar n'est pas monté, alors que s'il y avait Hakim Ziyech, peut-être on aurait eu ce couloir-là, aurait eu beaucoup de travail, parce que tout a été sur le côté gauche, donc les latéraux, le seul latéral qui a travaillé et qui a couru, c'était du côté gauche. C'est pour ça qu'on a vu que tous les joueurs allaient vers le côté gauche, parce que Derar ne pouvait pas suivre le rythme, peut-être vu son âge, peut-être parce que cette année, il n'a pas beaucoup jouer aussi avec son équipe. Donc ça aussi, ça, c'est à revoir, parce que moi j'aimerais bien que Hakim joue un jour, je l'avais dit à la CAN 17 et je le redis aujourd'hui, il faut qu'il joue à sa place, il faut chercher un arrière gauche, ça c'est, vous l'avez dit.
Il faut que Achraf Hakimi, voilà exactement, joue à son poste. On va aller du côté de l'Égypte encore une fois, et là on regarde ce superbe coup franc encore un de Pépé qui, je peux vous le dire dès aujourd'hui, ça sera, en tout cas si la Côte d'Ivoire arrive à aller loin dans cette compétition, ça sera la star de cette CAN, parce qu'il a été inarrêtable, l'attaquant de Lille qu'on annonce un peu partout dans les plus grands clubs européens. Déjà un coup franc sur la transversale et là un arrêt magnifique du portier sud-africain sur ce coup franc de Pépé. Retour donc en Égypte à Fouad El-Hanaoui. Fouad, vous avez rencontré des joueurs, l'entraîneur aussi, l'encadrement technique. Quel a été leur sentiment après cette victoire?
Ben écoutez, le sentiment de satisfaction, j'aimerais juste intervenir, si vous permettiez, et que me permettent les coachs Hilal Tahir et Abdelkader Youmir, c'est le choix d'Hervé Renard pour cette rencontre, avec un schéma ou une composition un petit peu différente de celle qu'on a vue lors des dernières sorties des Lions de l'Atlas. Hervé Renard qui a un petit peu changé le schéma tactique de son équipe avec un 4-4-2 plutôt qu'un 3-3-3, c'est-à-dire avec deux récupérateurs, notamment Esben Nasser et Bourabia, et deux joueurs à caractère offensif, notamment Bossofa et Ziyech, et puis deux attaquants qui sont Mrabat et Nseri, ce qui a laissé le couloir gauche, c'est-à-dire vide, avec les montées de Hakimi, il n'avait pas d'appui. On a vu un petit peu plus d'équilibre avec l'entrée de Bouffal, qui est un véritable gaucher, et c'est ça. Et c'est là qu'on a revu un petit peu une équipe marocaine conquérante. Donc un petit peu quelques choix qui posent des questions, et surtout, il faut aussi signaler que c'est la première fois qu'on a vu ce trio en milieu de terrain, c'est-à-dire Bourabia, Esben Nasser et Bossofa, et ceci est dû tout d'abord à la légère blessure de Younes Belhenda, et puis un choix tactique de laisser Al Ahmadi au repos. Al Ahmadi qui avait lui-même demandé de ne pas participer à une séance d'entraînement parce qu'il était un petit peu fatigué après deux semaines de préparation. Pour revenir un petit peu à l'état d'âme des concernés, notamment les joueurs et le staff technique, on va bien sûr entendre quelques-uns un peu plus tard dans dans l'émission, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment du devoir accompli, certes, mais un sentiment de satisfaction de la victoire, des trois points. Ils avouent que l'équipe du Maroc n'a pas été à la hauteur, n'a pas donné un visage flamboyant comme l'espérait que ce soit le public venu ici en Égypte ou bien le public qui est au Maroc et un petit peu à l'étranger suit un petit peu les Lions de l'Atlas, mais ils disent que la compétition mieux vaut jouer mal et gagner les trois points que de bien jouer et de n'en gagner qu'un seul ou au zéro point dans des rencontres très très importantes pour l'entame de la compétition et devant une équipe qui était regroupée derrière, ce qui n'a pas facilité un petit peu la tâche pour les Lions de l'Atlas. Donc sentiment disons de satisfaction et de responsabilité. Les joueurs on s'en dit, on est responsable, on sait ce qui nous attend dans cette CAN et on va partir crescendo, c'est-à-dire match par match, gérer match par match pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition continentale.
Aller le plus loin possible dans cette compétition, match par match, et le prochain match, ça sera face à cette sélection ivoirienne qui affronte en ce moment même l'Afrique du Sud. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps additionnel et toujours avantage à la sélection ivoirienne. On va donc retrouver Hervé Penaud. Hervé, bien entendu, cette victoire, elle est importante pour la sélection marocaine, mais elle pose des questions aussi, on le disait.
Oui, elle est pas importante, elle est essentielle. Alors on le voit en plus avec la victoire de la Côte d'Ivoire, hein. On sait qu'il va falloir absolument 3 ou 4 points pour être certain d'être dans les 3 premiers du groupe, dans un groupe dit hein, le groupe de la mort. Ça n'a pas été une grande performance des Marocains, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, vous l'avez dit précédemment. On pouvait s'attendre peut-être à mieux, mais je me méfie beaucoup des entames de compétition, surtout à 16h30, 40 degrés, difficulté de reproduire les efforts, quelques joueurs clés qui n'étaient pas là. Mine de rien, j'ai trouvé une deuxième mi-temps plus intéressante avec l'entrée de Boufal, alors qui n'a pas été efficace, évidemment, ni très très juste parfois sur ses derniers gestes, mais en tout cas qui a créé des différences. On a senti qu'il pouvait apporter beaucoup à cette équipe. Le fait que Ziyech se recentre, j'ai trouvé plus intéressant dans un positionnement plus central, comme Boussoufa qui descend avec la sortie de Boulabia, qui n'a pas fait un grand match hein, pour le moins, a fait qu'à un moment, j'ai trouvé que collectivement, il y a eu quand même quelques actions, on a senti quelque chose. Le problème, c'est qu'à un moment, n'importe quel match de foot, si vous voulez gagner, il faut marquer des buts. On ne peut pas simplement s'en remettre à la tête d'un adversaire. Et évidemment, une série, par exemple, qui pourtant sort d'une deuxième partie de saison très intéressante avec Malaga, a été vraiment passé à travers ce match-là. Il y a deux occasions énormes pour marquer. Il n'aimait pas. Et puis à côté de ça, des derniers gestes, des centres qui ne sont pas parvenus à destination, alors qu'il y avait quand même des possibilités de mettre en difficulté cette défense namibienne. Alors en face, ce n'était pas un adversaire de très haut niveau, il faut bien le dire. Donc on ne pourra pas louer la performance du Maroc. Mais franchement, je le répète, et l'important dans ce genre de compétition, c'est de commencer par une victoire. Et ce n'est pas pour rien que le Maroc ne gagne jamais dans ses premiers matchs de Coupe d'Afrique. C'est que parfois, il manque cette petite justesse. Rappelons-nous quand même qu'il y a 2 ans, la défaite contre la RDC aurait pu aussi poser d'énormes soucis pour cette équipe-là, après, avant la victoire contre la Côte d'Ivoire. Donc, l'essentiel est fait. Maintenant, connaissant Hervé Renard, il va bien se pencher aussi sur les soucis qu'il a pu avoir. Et ça, il s'est bien rendu compte qu'il y a quand même quelques problèmes. Alors, il va falloir voir comment les joueurs vont récupérer ce match-là. Ça, c'est important, parce qu'il y a aussi quelques joueurs âgés. On parlait d'El Hamadi, effectivement, qui ne pouvait pas débuter. On va voir s'il sera capable d'être titulaire pour le deuxième match, ce qui laissera des options supplémentaires à Hervé Renard. Mais maintenant, les 3 points, ils sont pris, ils sont plus à prendre.
Voilà donc pour cette sélection marocaine. Hervé, un petit mot avant de te libérer. Bien sûr, la Côte d'Ivoire vient de l'emporter 1-0. Victoire logique hein, face à cette sélection sud-africaine. Domination, plusieurs occasions et notamment un excellent Nicolas Pépé. Le but de Kodjia à la 64e minute. Je le disais tout à l'heure, Hervé, moi je connais déjà le nom de celui qui va briller lors de cette CAN, si jamais la Côte d'Ivoire va loin, ben ça sera Pépé, ça sera la grande découverte. Comment tu as trouvé, toi, la prestation de cette sélection ivoirienne ?
On l'attendait. Premier ballon, il fait une incursion dans le camp adverse, élimination, et il met une passe décisive à Kodja, qui rate sa frappe dans la surface de réparation. Il a été très très fort. On a senti que c'est lui sur lequel va reposer le jeu un peu des Ivoiriens. Il met 2 coups francs, dont un magnifique sur la barre transversale. Il était présent. Alors il sera encore meilleur, je pense, parce que là, n'oublions pas aussi que c'était un match à 4h30. Donc les matchs à 4h30, maintenant c'est terminé aussi bien pour les Marocains que pour les Ivoiriens, et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Mais il va falloir l'avoir à l'œil contre le Maroc, parce que ça, le match, le combat, j'allais dire, entre Hakimi et lui, va être quand même certainement l'une des clés de la performance de l'équipe du Maroc. Mais franchement, la Côte d'Ivoire a quand même des joueurs d'attaque très intéressants, parce que n'oublions pas qu'ils ont aussi Cornet, qu'ils ont aussi Wilfried Bonny qui est en magasin. Donc là, il y a quelque chose dans cette équipe de Côte d'Ivoire offensivement. J'ai trouvé que défensivement, il va falloir maintenant qu'ils règlent aussi un petit peu deux, trois petites choses. On a vu juste avant le but d'ailleurs de Kodja, une occasion énorme pour les Sud-Africains qui là ont mal géré un centre, un corner, mais qui aurait pu apporter du vrai danger devant le but de Gbowou, le gardien ivoirien. Donc voilà, c'est des matchs serrés. Maintenant, c'est tout à fait mérité pour les Ivoiriens. Et puis maintenant, on en salive d'avance de ce Côte d'Ivoire-Maroc. Ça rappellera des souvenirs.
Ça nous rappellera des souvenirs récents, bien sûr. Les deux dernières confrontations entre les deux sélections, ça tournait à l'avantage du Maroc. On s'en souvient, lors de la dernière édition de la CAN 2017, cette victoire 1-0, cette victoire marocaine en tout cas. Et puis, la qualification à la Coupe du Monde, la victoire 2-0 à Abidjan face aux éléphants. On va te retrouver dans la seconde partie de l'émission, Hervé, pour parler des autres matchs. On note juste et je rappelle donc cette victoire de la Côte d'Ivoire 1-0 face à la sélection sud-africaine. On se retrouve tout à l'heure dans la seconde partie de l'après-match.
Hey, on est où là ? On est en Afrique.
Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'après-match, toujours avec mes invités Abdelkader Youmer et Hilal Tahir ici en studio. Et puis notre consultant Hervé Penaud est au Caire, Fouad Hanné. On va d'ailleurs prendre tout de suite la direction du Caire pour y retrouver Fouad. Fouad avec une séance d'entraînement matinale pour les Lions de l'Atlas ce matin.
Oui, tout à fait, Jalal, une séance matinale, pas comme à l'accoutumée. Le staff technique des Lions d'Atlas nous a habitués à des séances d'entraînement à 17h, heure locale. C'est l'horaire qui coïncidait avec l'horaire du premier match face à la Namibie. Eh bien, le staff technique a cette fois-ci choisi un horaire très, très matinal, 11h du matin. Ce qui nous a obligés à se réveiller très très tôt ce matin pour aller rejoindre
donc l'équipe. Ça va, 11h du matin, Fouad, vous êtes habitué à des réveils beaucoup plus matinaux quand on travaille à la radio.
Oui, Jalal.
Se lever à 4h, ouais, à 4h30, ouais. C'est notre quotidien.
Oui, tout à fait. Mais quand on s'endort... Quand on s'endort avec le travail et les retransmissions et les papiers de l'air matinal à 3h du matin,
à choisir un autre métier. Ça s'appelle Mélèche Matin.
Et se réveiller.
Ça serait dommage après 30 ans de radio que tu te réveilles
à 8h. Se réveiller pour partir avec une heure pour aller rejoindre le stade de Salem qui se retrouve à 40 km du centre du Caire. Sans petit déjeuner.
Ça te fera pas de mal, sans petit déjeuner.
Écoute, comme tu dis, c'est Ménage
Matin.
Il faut jeûner le lundi. Voilà.
Cette séance d'entraînement, ça a été juste l'occasion de voir à l'œuvre un petit peu ceux qui n'ont pas joué, un léger décrassage pour les autres. Est-ce que vous avez des infos ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne se sont pas présentés à cet entraînement, par exemple?
Écoutez, d'abord pour le choix de l'horaire, il a été choisi, c'est pour permettre aux joueurs de suivre la rencontre de cet après-midi entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud et permettre à Patrice Baumel d'aller au stade Salem pour suivre. Donc,
Patrice Baumel et Hervé Renard, on l'a vu d'ailleurs, Hervé Renard lui-même a suivi cette rencontre.
et superviser, donc superviser les deux prochains adversaires de la sélection marocaine. Bah, les joueurs, tout le monde était présent. Ils ont donc effectué un entraînement très rapide. Pas beaucoup de travail côté physique. Et on a vu surtout Hakim Ziyech qui a effectué un entraînement en solo, c'est-à-dire à part les joueurs. Et rien d'alarmant pour leurs joueurs de l'Ajax. C'est juste qu'il a été un petit peu, disons qu'il n'a pas suivi les mêmes entraînements que les autres joueurs. Sinon, on a eu l'intervention du médecin de l'équipe du Maroc, Abdelrazak Heifsi. Et Bay qui a déclaré que tous les joueurs sont fin prêts, même Younes Belhenda qui a été absent lors de la première rencontre, eh bien il a répondu présent, il sera disponible pour la prochaine sortie des Lions de l'Atlas face à la Côte d'Ivoire.
Fouad Al-Hanaoui, merci beaucoup. On te laisse aller te reposer et dormir quelques heures, bien entendu, avant la reprise du travail. Mais le travail se poursuit pour toi, puisqu'on attend, bien entendu, tes sujets, tes reportages pour les éditions de la soirée. On revient donc à la CAN. On va aller du côté de notre consultant Hervé Penaud. Hervé, alors, on a vu plusieurs matchs jusqu'à présent. Quelles sont tes impressions? Quelle est la sélection qui t'a tapé dans l'œil?
J'ai bien aimé l'Algérie.
C'est ce que j'allais te dire, effectivement.
Parce que j'ai trouvé que c'était une équipe cohérente, bien en place, système de jeu bien maîtrisé par ses joueurs. Ils ont surtout joué une première mi-temps, la deuxième, ils l'ont plutôt maîtrisé. Mais vu les conditions, comme je le disais tout à l'heure, atmosphériques, vaut mieux pas faire d'efforts inutiles hein, sur des matchs que vous menez assez facilement. J'ai trouvé que les joueurs Feghouli, c'est une très bonne idée de la replacer peut-être un peu plus bas. Bennacer a fait un très bon match, techniquement, grosse qualité technique, en plus pas mal de coffres et de souffle, et en dépit d'un physique assez léger, a été quand même à la bagarre pas mal. Bounedja a montré pourquoi on lui faisait confiance et pourquoi Belmadi lui faisait confiance devant, parce que c'est un vrai poison, c'est un vrai pur buteur, hein, ce qui n'a peut-être pas l'équipe du Maroc. Donc j'ai trouvé vraiment une équipe d'Algérie intéressante, et aussi j'ai trouvé l'équipe du Sénégal, hein, c'était les deux gros favoris qui passaient hier avec le Maroc. Et le Sénégal a aussi montré qu'il va falloir compter sur eux, mais ça, on le savait avant. Il n'y avait pas Sadio Mané. Mbaye Niang a raté énormément d'occasions. Alors sinon, le score a été largement plus lourd. Un milieu de terrain qui s'est révélé, avec Idrissa Gueye devant, qui nous a fait jouer un petit peu plus haut. Badou Ndiaye, le joueur de Galatasaray, juste devant la défense. Et puis, le jeune premier, Crépin Diata, qui joue à Bruges et qui est un pur espoir du football sénégalais, qui met un but magnifique, qui est pour l'instant peut-être le plus beau but de ce début de compétition. Et ça a été un milieu à la fois cohérent dans la récupération et surtout capable d'utiliser la balle, ce qui a souvent manqué à cette équipe sénégalaise qui avait beaucoup de costauds au milieu de terrain, mais justement qui manquait un petit peu de justesse technique. Là, franchement, le Sénégal a fait bonne impression, sachant que derrière, ça a bien tenu, même s'il y a l'interrogation Sané qui s'est blessé, qui s'est fait visiblement une entorse à la cheville. On verra un petit peu comment ça va évoluer au cours de la compétition. À première vue, son premier tour serait râpé, mais c'est Kouyaté dans ces cas-là, le capitaine qui descendrait en défense centrale, lui qui a perdu sa place au milieu de terrain.
Voilà donc pour ces dernières infos concernant cette sélection sénégalaise. Aujourd'hui, on attend l'entrée en lice servée de la Tunisie, mais aussi d'une sélection qui débute dans la compétition, la Mauritanie.
Oui, alors la Tunisie, on les attend toujours. Alors, c'est une équipe qui maîtrise bien ce genre de compétition, pas pour aller au bout, j'allais dire, bon, c'est vrai qu'elle avait gagné chez elle à l'époque, Santos, etc., mais qu'il y a des joueurs capables de bien jouer sur le continent, parce qu'ils sont habitués via la Coupe d'Europe, et alors, même si aujourd'hui ils ont pris beaucoup plus de joueurs venant de l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant dans cette équipe de Tunisie, des joueurs clés qui peuvent faire des différences, je pense à bien sûr Kadri, mais Sliti fait une bonne campagne de préparation là, il va falloir le voir. Sakni, évidemment, ça peut être aussi le déclencheur, le feu follet technique de cette équipe. Donc voilà, il y a un effectif costaud et Alain Jurès qui connaît les Coupes d'Afrique des Nations, hein, il a déjà fait un petit paquet. Donc tout ça permet de se dire que la Tunisie aussi a un beau package. Peut-être pas pour aller au bout, mais pour être l'un des outsiders ou même un trouble fait de cette compétition. Quant à la Mauritanie, évidemment, c'est la première, c'est le grand moment des Mauritaniens. Personne ne les attendait là. Bravo surtout au président de la fédération. Alors, bien sûr, Corentin Martins, qui a fait un très bon boulot avec ses joueurs. Mais je trouve qu'il y a eu une vision d'ensemble de la part du président de la fédé mauritanienne qui a permis de mettre en valeur ce football mauritanien. Il a créé différents championnats, ce qui prouve que quand on travaille avec vigueur, avec abnégation et puis avec une vraie vision, on est capable d'amener loin ces équipes. Bravo pour la Mauritanie, même si on sait évidemment que c'est le fait que ce soit 24 qui a permis à des équipes aussi de se révéler durant ces éliminatoires, même si la Mauritanie, attention, était leader de son groupe très longtemps.
Merci beaucoup Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, comme le ridicule ne tue plus. Tu es en train de regarder, mon cher Hervé, parce qu'on a des écrans télé dans ce studio, un match de beach ping-pong, ça existe.
Oh là là, je ne savais pas que ça existait. Vous m'en apprenez tous les jours, mon bon Jalal.
Ah, c'est ultra passionnant. Merci beaucoup, Hervé Penaud, notre consultant pour, bien entendu, le football africain. Je reviens vers vous, mes amis, avec donc cette séance matinale d'entraînement de la sélection marocaine aujourd'hui. Bon, il y avait ce match. Je pense que les techniciens, le staff de la sélection voulaient que les équipes et que leurs joueurs entrent dans cette compétition encore plus, qu'ils regardent en direct ce match de leurs futurs adversaires, la Côte d'Ivoire et aussi la sélection sud-africaine.
Oui, je pense que c'est normal que on fait un entraînement matinal, vu que le match de la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se joue l'après-midi. Ça permettra au staff d'aller voir le match, de noter, parce que même si on voit, et ça, tout le monde nous on le dit souvent, parce que on préfère voir un match au terrain que en vidéo, parce que là tu vois tout ce qui se passe. Ouais. Parce que le placement, on voit pas. Parce que à la télé, on voit que le ballon, la place du ballon. Mais quand tu es là, tu peux cadrer tout le terrain, voir le déplacement du bloc, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller au terrain. Je pense qu'ils ont bien fait. Et c'était peut-être, s'il n'y avait pas ce match, peut-être ils auraient fait l'entraînement l'après-midi à 18h, à 19h, quand il fait plus froid. Mais c'était plus ou moins une obligation, et donc ils l'ont bien fait. J'espère qu'ils ont apporté beaucoup de remarques et de choses qui vont être bénéfiques à l'équipe nationale.
Voilà, des informations importantes. Hillel, je sais que ce sont des choses auxquelles tu tiens énormément. La gestion, en tout cas, de l'effort, de la fraîcheur aussi. À quoi sert une séance d'après-match comme celle-ci, surtout d'après un match dans des conditions un peu très compliquées, une grosse chaleur et beaucoup d'efforts qu'on sentit aussi durant tout au long de cette partie.
Déjà, savourer la victoire, à décompresser et mentalement et physiquement, à recharger les batteries, permettre aux joueurs qui ont commencé le match de récupérer davantage. Permettre aussi aux joueurs qui n'ont pas participé ou qui ont eu un temps de jeu pas considérable d'avoir une charge de travail supplémentaire, une sorte de mise à niveau. Sinon, je suis du même avis que le coach Yomir. Je pense que le scouting en live est le plus bénéfique. Ça permet de voir le bloc équipe entier, ça permet de voir sa hauteur, ça permet de voir le circuit préférentiel en sa totalité, voir le mouvement des joueurs sans ballon, et ça c'est très important. Il y a beaucoup de choses. Sinon, un décrassage sert à faire aussi des petits réglages, à faire passer le bon message, parce que l'équipe, la sélection nationale, il est appelé à monter en puissance, surtout que le prochain adversaire est de calibre supérieur. Il a montré de belles choses aujourd'hui face à l'Afrique du Sud. Sinon, moi, je reste optimiste parce que malgré la domination lors du dernier match face à la Namibie, malgré la chaleur, malgré les absences, malgré, je ne vais pas dire l'anti-jeu, mais je vais dire le rideau défensif très compact des Namibiens.
Il n'y a pas d'anti-jeu.
Voilà,
il n'y a pas d'anti-jeu.
Oui, mais quand même. On peut avec un bloc très très bas, c'est.
Ouais, on
c'est
peut pas obliger à un moment ou à un autre, on peut pas obliger les équipes à pratiquer un jeu
on
qui
peut
nous,
pas les obliger.
Qui nous convient.
Mais c'est dans le domaine
mais
football,
je pense que le Maroc,
la stratégie du bus garé, c'est de l'anti-jeu.
Oui, mais je pense que pour le Maroc, c'est une bonne chose que maintenant il va jouer avec une équipe qui va ouvrir le jeu.
Non, donc, c'est clair.
Déjà ça, ouais, parce qu'on a vu que Boufal, quand il dribblait, il se retrouvait en dehors du terrain, parce qu'il n'y avait pas d'espace. Quand il fait un bloc presque au niveau des 18 mètres ou à l'intérieur des 18 mètres, justement. Donc c'est très difficile.
Mais justement, ce que
donc,
j'allais dire.
Je pense que Boufal aura plus de place pour essayer d'aller plus loin et essayer de centrer. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'équipe nationale de se retrouver avec une équipe qui va attaquer elle aussi et qui va sortir.
Là, si vous parlez de la Côte d'Ivoire, elle va beaucoup attaquer.
Va avoir beaucoup de travail avec Pépé.
Je voulais juste signaler un problème récurrent depuis la Coupe du Monde. Parce qu'on a... On a du mal à concrétiser, on a du mal à trouver les solutions dans le dernier tiers. Il n'y a pas de densité dans la surface de réparation.
On ne suit pas.
Il y a beaucoup de problèmes. Mais il y a des causes. Parce que lorsqu'on voit c'est une sélection qui bâtit.
C'est un petit peu au niveau de l'effectif aussi.
Oui,
mais le milieu, il doit suivre parce que quand tu es sur le côté, tu fais un centrage. Normalement, on trouve seulement l'attaquant de pointe, alors que normalement,
les milieux doivent
suivre. Comme ça, il y a 3-4 solutions.
On sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions et que on pouvait attendre encore des heures sans voir cette équipe du Maroc marquer de buts. Parce que franchement, on est tous contents, mais super heureux de ces 3 points. Franchement, c'était pas.
Oui, mais
très aussi
l'attaquant.
Pas très beau, ce qu'on a vu.
L'attaquant, parce que le type d'attaquant, il y a un attaquant qui est type Giro, qui est Nasser normalement. C'est un attaquant qui joue de la tête, mais qui décroche pour orienter, c'est-à-dire jouer les unes.
C'est un joueur qui fixe, c'est
donc
un attaquant.
Donc lui, il reste entre deux défenseurs, il est tranquille. Mais c'est pas le travail d'un attaquant.
Non,
attaquant
mais moi je préfère, par exemple, à l'œil nu, le changement poste par poste de Nasser et Boutayeb. Oui. Pareil pour c'est banal, alors que c'est pas le même profil. Boutayeb, c'est quelqu'un qui décroche, et quand tu décroches, tu crées des espaces
pour les joueurs qui viennent
par derrière. Peuvent plonger dedans. Oui. Beaucoup de choses. Lorsqu'on voit 6 tirs cadrés sur 19, c'est révélateur d'une maladresse. Il faut l'avouer. La montée des arts. Jouer avec Nasser présent sur les balles aériennes, mais avec un des rares maillons faibles de la défensive, avec un Hakimi qui joue contre nature. Moi, personnellement, j'étais
abasourdi
par la médiocrité de la qualité des centres.
Il n'y a pas eu de centre
qui est formé au Real Madrid, qui est censé avoir ne pas avoir de déchets ou très peu.
En tout cas, il y avait si juste on parle de Hakimi, on se pose, c'est vrai que la solution Hakimi, c'est du dépannage. Mais à un moment, dépannage pour dépannage, est-ce que ça ne serait pas mieux, à votre avis, vous, les techniciens, aujourd'hui, on se retrouve avec deux côtés qui boitent. À gauche, Hakimi, qui ne peut pas jouer
centré.
À gauche, et à droite, l'autre, parce qu'il n'est pas censé être là aujourd'hui. Il n'y a pas de niveau aujourd'hui.
Il y a un Badi sur le banc. Il y a un Badi sur le banc. Et qui a donné satisfaction lors des matchs amicaux.
Il n'a pas d'expérience, il aura peur de le mettre.
C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Il doit jouer pour avoir l'expérience. Pas en le mettant sur un banc de touche. C'est le meilleur arrière-gauche de notre Botola. C'est un rejet catégorique et flagrant de nos botolistes.
Oui, mais c'est ça le problème.
Ça donne aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, ça veut dire. Il faut appeler un chat un chat. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'aujourd'hui, quand on tourne le dos, mais complètement et structurellement à notre produit local, c'est-à-dire le championnat, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste l'échec total du football marocain, de tout le monde, et notamment de l'instance qui gère savoir la Fédération Royale Marocaine de Football, parce qu'aujourd'hui c'est la solution de facilité, mais jusqu'à quand facilité? Et aussi aujourd'hui, quand on ferme les portes comme ça, c'est un débat énorme qu'on ne va pas tenir aujourd'hui, il ne reste que 2 minutes, mais quand on ferme comme ça les portes de la sélection à la Botola et aux joueurs de la Botola, c'est juste la mort.
Mais monsieur Fouette, ce que j'allais dire, c'est que faire les choses simplement,
Moi, c'est Jalal et son monsieur.
Excusez-moi. Monsieur Jalal.
C'est Jalal, non, et son monsieur.
Jalal tout court.
C'est Jalal.
Un Hakimi à droite et un Baadi à gauche. C'est vrai, on a une
paire. On aurait pu le faire dans les matchs amicaux.
Ouais, ouais, mais maintenant, c'était.
Maintenant, c'est trop tard. Je ne pense pas qu'il pourrait le faire. Je ne pense pas. Parce que moi, ce que je vais dire, confirmer ce que dit Jalal, c'est que normalement, ce championnat-là, il a quand même des équipes qui sont arrivées.
On ne doit même pas le tenir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en Coupe d'Afrique des Nations.
Ainsi, Amrabat, à l'unanimité, Amrabat, elle est plus performant, plus dangereux à droite. Ah ben, on le fait jouer à droite.
Oui, oui.
Pourquoi ne pas profiter de la complicité préalable entre un Mazraoui et un Ziyech qui existe déjà.
Voilà,
deux joueurs dans son club.
Mazraoui, je ne prononce pas sur son blessé. Cas parce qu'il était blessé, il revient. Mais oui, il est polyvalent, il est à droite, à gauche et au milieu.
Derrard revient d'une blessure, Hakimi revient d'une blessure. Notre paire centrale aussi, c'est vrai, il est resté égal à elle-même, mais
on n'était pas trop.
On n'a pas été inquiété. Heureusement, il a été renforcé par un milieu terrain généreux. Oui. Les deux Aït Bennassa et Bourbéa, oui. Ils étaient généreux dans l'effort, ils ont
on a découvert ces joueurs-là, donc c'est bon.
Non mais avec l'arrivée, avec le retour de Belhanda, comment on va faire? Et pourquoi un Ziyech pas dans l'axe plutôt comme numéro 10
derrière l'attaquant?
L'entrée d'Ahmadi, oui, aussi a fait beaucoup de bien. Bouffal, pourquoi il ne commence pas? C'est le meilleur côté gauche. Bouffal est le meilleur dribbleur de la Ligue, mieux que Messi. Côté dribble, ouais. Je signale. Ouais. Et il a apporté beaucoup de dynamisme. Imaginez, côté ballon, côté gauche, il est passé de 20 à 60% d'animation après l'entrée de Pouffet.
Oui.
Il y a beaucoup de choses, des statistiques.
Beaucoup de choses. Mais on aura de toute façon l'occasion
avec
notre super consultant, bien entendu, Hilal Tahir, de revenir sur tout ça. Ça sera demain avec Wadia Ouhti notamment et les autres membres de l'équipe dans l'émission Mayedine. C'est la fin de cette édition de l'après-match. Mille merci d'avoir suivi. Ciao, ciao les amis.